France Culture.
Le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et l'on se rendra dès le début du journal à Copenhague, transformé en véritable place forte pour un sommet informel aujourd'hui sur la sécurité de l'UE. Les États-Unis ont basculé depuis cette nuit dans le shutdown. On se rendra sur place pour savoir concrètement ce qui a changé. Avec notre invité, on parlera de ce mouvement de contestation à Madagascar qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Ils étaient encore des milliers de manifestants hier dans la rue à réclamer le départ du président. Enfin, l'actualité en France, c'est notamment la rentrée parlementaire avec l'attribution à partir d'aujourd'hui des postes clés à l'Assemblée. On détaillera l'accord conclu hier au sein du socle commun pour un pacte de candidature. Face à la guerre néo-impérialiste de la Russie déclenchée aux portes de l'Europe, le vieux continent doit-il se préparer à une autre réalité factuelle, une guerre hybride menée cette fois-ci dans son propre espace aérien, sans pour autant céder aux scénarios les plus hystériques. L'Europe n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de veiller à préserver son unité. Or, depuis l'invasion de l'Ukraine par l'armée du Kremlin, mais aussi et surtout après l'incursion ces dernières semaines d'avions et de drones, la question sera nécessairement à l'ordre du jour de la réunion informelle des chefs d'État et de gouvernement de l'UE prévue aujourd'hui à Copenhague. En l'occurrence, quatre projets phares sont d'ores et déjà sur la table. La défense de l'espace, le renforcement du flanc est de l'Europe, la défense antimissile et un mur anti-drone. Fabien Cazot, bonjour.
Bonjour.
Envoyé spécial à Copenhague, les responsables ont commencé à arriver sur place sous très haute sécurité puisque des renforts militaires sont venus de partout. Fabien, d'Allemagne, de Pologne, de Scandinavie, de France et même d'Ukraine.
Effectivement, d'importants moyens déployés pour faire face à toute nouvelle intrusion de drones, hostiles ou anonymes. Depuis la semaine dernière, plusieurs ont survolé des aéroports danois ainsi que des bases militaires. Le Danemark n'a pu ni les intercepter ni les abattre. C'est donc une aide internationale qui se déploie ce mercredi, jour de Conseil européen, en présence de 27 chefs d'État et de gouvernement dans la capitale danoise. Un navire allemand stationne également dans le port de Copenhague, tout radar déployé vers le ciel danois. Tous les vols de drones civils ont été interdits ici pour la journée et pour la semaine même. Voilà pour le tableau qui plonge directement les dirigeants européens dans le vif du sujet. La défense des frontières, notamment orientales, de l'Union européenne, avec cette idée de mur anti-drone poussée notamment par les États baltes et la Pologne, elles-mêmes victimes d'intrusions de drones russes il y a deux semaines. Les 27 parleront également système antimissile et défense de l'espace, un agenda militaire qui se double de questions sur le financement de tout cela. Après que la Commission européenne a mis sur la table 150 milliards d'euros de prêts bonifiés et que les États membres ont augmenté leur contribution budgétaire à l'OTAN, la question d'un grand emprunt européen, bien que n'étant pas officiellement à l'ordre du jour aujourd'hui, continue de faire débat parmi les États membres.
Merci Fabien Cazot, en direct de Copenhague avec Benjamin Troncin pour les moyens techniques. Alors on évoquait à l'instant cette menace venue de Russie. Il se trouve qu'hier on a appris que le parquet de Brest avait ouvert une enquête à la suite d'un signalement de la Marine nationale concernant un pétrolier immobilisé au large du parc éolien de Saint-Nazaire, un navire battant pavillon du Bénin, mais soupçonné d'être impliqué dans les survols de drones justement qui ont perturbé ces derniers jours le trafic aérien du Danemark. Claude Guibal, bonjour.
Bonjour.
Ce bateau est présent en réalité depuis plusieurs jours déjà à proximité des eaux territoriales françaises. Il s'agit d'un pétrolier parti de Russie et qui appartiendrait, Claude, à toute une flotte fantôme utilisée par Moscou pour contourner les sanctions occidentales.
Oui, et derrière cette expression, un flotte fantôme, se cache en fait un réseau de vieux pétroliers, souvent mal entretenus, qui changent sans arrêt de nom et de pavillon, comme ce tanker là dont vous venez de parler, hein, qui a plusieurs noms, Pushpa, Boratchaï, Kiwala, et qui cumule des pavillons de complaisance du Bénin, Gabon, Libéria. Alors la mission de cette flotte fantôme, c'est de transporter du pétrole russe, essentiellement, en contournant les sanctions internationales. 343 tankers sont officiellement répertoriés, connus hein, pour faire partie de cette flotte fantôme, mais ils seraient en fait beaucoup plus nombreux. Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, l'amiral Benoît de Guibert, a estimé leur nombre l'été dernier à 900, utilisés également par l'Iran et la Corée du Nord. 316 de ces bateaux, au moins, sont déjà sous sanctions de l'Union européenne, du Royaume-Uni ou des États-Unis. Et ces sanctions, elles datent de 2022, lorsque le G7 G7 a mis en place un plafonnement du prix du pétrole russe, suivi par l'Union européenne et le Royaume-Uni. Alors l'objectif, c'est de réduire les revenus de Moscou sans priver le marché mondial d'énergie. Mais il est quasi impossible en fait d'empêcher l'activité de cette flotte fantôme, car elle exploite vraiment toutes les failles, toutes les zones grises du droit maritime. Les bateaux naviguent sous des pavillons de complaisance, ils utilisent des sociétés écrans, ils effectuent les transferts de cargaison en pleine mer et souvent ils désactivent leur système de suivi, les fameux transpondeurs. Alors résultat, il est quasi impossible de les localiser et les arraisonner en zone internationale est juridiquement extrêmement complexe et très très risqué.
Merci Claude Guibal. Benjamin Netanyahu aura-t-il l'opportunité d'annoncer pour le nouvel an juif et avant la date fatidique du 7 octobre prochain la libération des otages, en même temps que la fin de sa guerre de représailles interminable menée dans la bande de Gaza? Pour l'heure, le Hamas n'a toujours pas répondu à l'ultimatum que lui a adressé Donald Trump, assorti de cette promesse qu'il risquait, je cite, « l'enfer » s'il n'acceptait pas son plan dans les jours à venir. Seule certitude, les précédents historiques ne sont pas franchement prometteurs, sans compter que ce plan qui s'attarde au fond assez peu en réalité sur les détails, quelques feuillets à peine, chacun des 20 points n'occupant guère qu'un paragraphe, laisse surtout pour l'instant largement l'espace à des interprétations contradictoires, voire prête le flanc à un déraillement possible à chaque étape. Reste malgré tout l'instinct de survie dans un territoire promis à la dévastation, d'autant qu'hier au moins 41 personnes ont encore été tuées par les forces israéliennes et que ce matin même, l'État hébreu a annoncé le blocage du dernier accès au nord de la bande de Gaza en proie aux bombardements et à la famine. Toujours est-il qu'en dépit donc de la pression exercée à la fois par Washington et Tel Aviv, le Hamas rechigne toujours jusqu'à maintenant à signer cet accord en forme de reddition. C'est une illustration de plus de cette ère d'incertitude, décidément totale, ouverte par Donald Trump après son retour à la Maison-Blanche. Depuis cette nuit minuit, la fermeture partielle du gouvernement américain est désormais effective. Faute de deal cher aux milliardaires républicains avec ses adversaires démocrates, les États-Unis sont entrés en période dite de shutdown, avec pour conséquence le gel d'une partie de l'administration. Pour le dire autrement, depuis ce matin, ce sont des centaines de milliers de fonctionnaires qui se retrouvent au chômage technique sans aucune solution dans l'immédiat. La dernière période de paralysie fédérale remonte à décembre 2018, déjà d'ailleurs sous la présidence de Donald Trump. Elle avait duré 35 jours, un record, et dans un climat aujourd'hui plus que jamais polarisé, où toute conversation a vite fait de tourner à l'affrontement politique, où chaque parti rejette la responsabilité sur l'autre, nombreux sont ceux à redouter que ce shutdown ne dure encore davantage que les précédents. En attendant, qu'est-ce qui a donc changé depuis ce matin aux États-Unis? Élément de réponse avec notre correspondant à Washington, Franck Madvan.
D'après les estimations officielles, 750 000 fonctionnaires seront aujourd'hui au chômage technique, près de la moitié d'entre eux au ministère de la Défense, dans des fonctions civiles. Dans tous les ministères, les agences fédérales, des milliers de personnes ne pourront plus travailler. En revanche, les employés fédéraux dont la tâche est jugée essentielle poursuivront leur activité. C'est le cas des forces de l'ordre, des agents de l'immigration, des contrôleurs aériens, des fonctions liées aux distributions d'aides sociales, même si des retards sont possibles. Jusqu'à 4 millions de personnes pourraient ne pas être payées pendant un certain temps. Et puis il y a les inconnus. En fait, tous les shutdowns sont différents. On ne sait pas encore si les parcs nationaux resteront ouverts. Les résultats économiques, suivis de près par les marchés, comme le chômage, pourraient ne pas être publiés. Des entreprises privées qui travaillent avec l'État seront affectées. Un shutdown prolongé peut faire chuter la croissance. Enfin, autre conséquence possible, celle-ci exceptionnelle, le gouvernement menace de convertir le chômage technique en licenciement massif.
À Madagascar, le limogeage du gouvernement n'a pas suffi à calmer la fronde.
Non, la décision du président, c'était mardi dernier, n'a pas permis d'apaiser la colère de la jeunesse, sans doute parce que le chef de l'État n'a pas pris la mesure de l'ampleur de la contestation qui secoue le pays depuis une semaine, à moins, au contraire, qu'il n'ait que trop bien compris, justement, l'expression de ce profond mécontentement au départ pour réclamer l'amélioration des services publics, mais qui s'est transformé depuis en une exigence plus radicale, celle de la démission pure et simple du président. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Solouf Rendri, directeur du laboratoire gouvernance et développement à l'Institut des études politiques de Madagascar. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Ce mouvement de protestation est aujourd'hui porté par un collectif Génération Z, un mouvement spontané de jeunes qui s'est imposé au fil des jours comme l'acteur central de la rue. Est-ce que le fait que ce mouvement soit né dans des cercles sociaux restreints, des étudiants donc connectés à Internet, permet de dire qu'il s'agit là d'une minorité seulement de la population ou d'une sorte d'affrontement d'une génération contre une autre ?
Je ne pense pas qu'on puisse lire les réalités comme ça. Certes, c'est parti de cette minorité dont vous parlez, accès à Internet, à une certaine culture, etc., de la génération Z, justement. Mais ils sont un peu le porte-parole d'une grande partie de la population, dans la mesure où ils réclament initialement les droits fondamentaux, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, dénoncer la corruption, etc. Enfin, des maux dont souffre Madagascar depuis plusieurs années. Qui touche toute la population. En
fait. Des mots, dites-vous, qui touchent Madagascar depuis des années, alors même que l'île de Madagascar est riche en nickel, en or, en titane, en cobalt, en saphir, elle dispose d'atouts agricoles et forestiers considérables.
Oui, c'est vrai, mais ce sont des richesses qui sont monopolisés. Enfin, le partage des bénéfices des richesses est tout à fait inégal. Il y a un système mafieux, en quelque sorte, dans les cercles du pouvoir, qui monopole toutes ces richesses. Et on voit sur les réseaux sociaux de ces mêmes personnes qui profitent de ces richesses, des gens qui sont à Dubaï, qui envoient leurs enfants en Suisse faire leurs études, etc. Donc tout ça, ça choque.
Ça veut dire que ces protestations ne se concentrent pas sur la seule figure du président, mais concernent plus largement toute la classe politique.
Oui, mais le président symbolise un peu tout ça, parce que dans ce régime très personnalisé, enfin c'est la culture politique qui veut ça, le président symbolise et incarne cette corruption et tout ce qui est un peu contre la loi, quoi. Le fait, par exemple, qu'il ait violé la Constitution en se présentant aux élections en 2018, alors qu'il a caché sa nationalité française, normalement selon la Constitution qu'il a lui-même contribué à faire plébisciter. Quelqu'un qui demande une nationalité étrangère est déchu de facto de la nationalité malgache. Là, c'est son cas.
La répression de ces manifestations fait état d'un bilan extrêmement lourd, au moins 22 morts et une centaine de blessés en quelques jours. Pour autant, dans un contexte où les espaces d'expression citoyenne en Afrique se réduisent comme peau de chagrin, est-ce que cette mobilisation des jeunes malgaches ne fait pas mentir tous ceux qui regrettent finalement souvent une forme de résignation, de fatalisme face à des régimes puissants et arrogants?
Ben, il y a eu une période de fatalisme, de résignation face à la brutalité de ce régime, je dirais. Il y a plusieurs prisonniers politiques, par exemple, qui sont encore sous les verrous, et notamment des jeunes lanceurs d'alerte. Enfin, moi, je les considère comme des prisonniers politiques, des journalistes. Et puis une menace qui plane, et ça a un peu découragé, disons, ceux qui s'expriment dans des formes plus classiques d'expression. Et c'est pour ça que ça a pris cette forme génération Z à travers les réseaux sociaux, etc. Ça se retourne un peu contre le président qui est lui-même un consommateur de Facebook, notamment.
C'est bien compris. Merci, Monsieur Solouf Randrianja, donc directeur du laboratoire gouvernance et développement à l'Institut des études politiques de Madagascar, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à Louise Guérin pour la préparation.
Midi passé de 44 minutes sur France Culture. La suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Après 11 semaines de pause, le Parlement fait sa rentrée aujourd'hui dans un certain brouillard, forcément, en l'absence toujours d'un gouvernement. Alors les travaux habituels dans l'hémicycle ne reprendront qu'à partir du 6 octobre. Avant cela, le Palais Bourbon va devoir se remettre mettre en ordre de marche avec l'attribution de postes clés, comprenez les 21 membres du bureau, sa plus haute instance exécutive, mais aussi les présidences des commissions permanentes, dont l'emblématique commission des finances réservée à l'opposition. Et puis bien sûr, toute cette bataille sera un test aussi pour la solidité de l'alliance entre macronistes d'un côté et LR de l'autre, qui espère toujours s'entendre sur la composition de la future équipe qui entourera le Premier ministre, dont la composition est attendue a priori en fin de semaine et qui devrait, selon toute vraisemblance, faire la part belle au sortant. Adrien Taufollet, bonjour.
Bonjour.
L'an dernier, on s'en souvient, le RN avait été laissé à la porte lors de l'attribution donc de ses postes cruciaux à l'Assemblée. Cette fois-ci, la présidente Yael Braun-Pivet a proposé une répartition proportionnelle entre groupes politiques, de sorte que l'extrême droite devrait revenir dans le jeu et la gauche d'ailleurs perdre sa majorité. Le tout, Adrien, selon un accord conclu hier entre le camp présidentiel et la droite.
Oui, alors cela fait déjà longtemps que Yael Braun-Pivet milite pour que l'ensemble des sensibilités politiques de l'hémicycle soient représentées au bureau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une question de conviction politique, c'est une question de démocratie, a-t-elle répété ce matin sur BFM TV. Cela concerne d'ailleurs le MoDem et l'UDR d'Éric Ciotti au même titre que le Rassemblement national. Et donc cette répartition imposée par la présidente de l'Assemblée force les alliances de circonstances, car très concrètement, cela signifie que le RN récupérerait deux postes de secrétaire, mais surtout deux des six vice-présidences. Hélène Laporte et Sébastien Chenu retrouveraient chacun ces postes qu'ils ont occupés entre 2022 et la dissolution de 2024. Lors du vote cet après-midi, les députés de gauche s'y opposeront au nom du barrage républicain, mais ils seront moins nombreux que les voix cumulées du RN, de l'UDR et du socle commun. Ces alliances, qui sont à cette heure quasi assurées d'aboutir, impliquent des concessions. LR et Renaissance, par exemple, laissent chacun une vice-présidence au profit du maintien de Naïma Moutchou du parti Horizon d'Edouard Philippe et de l'arrivée d'un élu MoDem. Et puis, victime collatérale, vous l'avez dit, la gauche qui perdrait l'une de ses vice-présidences. Cela se joue entre la France Insoumise qui en a deux et les écologistes une. Et chaque camp y tient fermement. Ce matin encore, aucun accord n'avait été trouvé entre eux. D'ailleurs, plus largement, chaque parti négocie en ce moment et jusqu'au dernier moment. Car après l'élection du bureau cet après-midi, viendra demain le vote des présidences des huit commissions permanentes. Les concessions de LR, Renaissance et très probablement des écologistes aujourd'hui sur la composition du bureau se négocient cher. Des postes de secrétaire au bureau, mais surtout le prix d'un soutien demain pour s'assurer de diriger les commissions. Là, ce n'est pas une question de démocratie, mais de politique politicienne.
Merci Adrien Taufollet. C'est un rapport sévère que nous vous détaillons depuis ce matin, celui de la Cour des comptes sur le fonctionnement des chambres d'agriculture et la façon dont celles-ci dépensent l'argent public qui constitue la majeure partie de leur budget, soit environ 600 millions d'euros chaque année. Or, pour les juges qui se basent sur de nombreux contrôles menés depuis 2017, le constat est accablant entre les cas de corruption, de favoritisme ou bien les prises de décisions illégales. Julie Pietri, bonjour.
Bonjour.
De la cellule d'investigation de Radio France, vous avez donc épluché ce rapport et parmi les chambres mentionnées, on trouve notamment celle du Lot-et-Garonne, dirigée par la coordination rurale depuis plus de 20 ans. En l'occurrence, Julie, que lui reproche la Cour des comptes ?
D'avoir fait construire avec de l'argent public une retenue d'eau illégale. C'est l'affaire du lac de Caussade. D'abord autorisé pour irriguer les terres alentours, puis interdit par la préfecture. Qu'à cela ne tienne, Serge Bousquet-Cassagne, homme fort de l'ACR, était alors président de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne.
Ce lac, on l'a fait. Et ça a été une formidable aventure humaine. Et vas-y, toi, sur un tombereau. Et vas-y, toi, sur un tracteur à 300 chevaux. Est-ce que vous imaginez ça par une autre profession que la nôtre? Ça n'existe pas. Si les flics avaient chargé, ils se seraient fait tuer. Vous m'entendez? Ils se seraient fait tuer pour défendre ce lac. Ça marque, hein. Et le lac, il est là. Ça, c'est une chambre coordination rurale.
Serge Bousquet-Cassagne a depuis été condamné, mais l'État n'a pas su, effectivement, s'opposer à la construction. Le lac est aujourd'hui en voie de régularisation.
Et toujours selon la Cour des comptes, Julie, cette chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne cumulerait en fait une liste d'irrégularités importantes.
Oui, déjà mentionné dans un rapport dès 2024, un président qui nomme son fils agent comptable sans appel à candidature, une défiance vis-à-vis de l'État, des comptes qui ne sont pas justes. Préfecture et ministère ont trop longtemps laissé faire. Il y a eu défaillance de la tutelle, selon la Cour des comptes.
Merci Julie Pietri. Combien seront-ils dans la rue demain? La CGT recensait hier 240 actions prévues dans toute la France. La deuxième journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale pour s'opposer aux pistes d'économie budgétaire et demander plus de justice fiscale. S'annonce toutefois moins suivie que celle du 18 septembre avec 10% des enseignants du premier degré en grève et un trafic normal pour les TGV et le réseau RATP de la capitale. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi ensoleillé sur les trois quarts du pays, sauf de l'Alsace à la Côte d'Azur, où les nuages seront plus abondants. Quant aux températures, elles seront comprises entre 16 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Alix Forgeot. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.